te parle de ça, si je suis parti en 2011, influenceur voyage, ça n'existait pas. Blogueur, c'était pas un métier. Je savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec ça, tu vois. Moi, j'avais une seule chose en tête, c'était... Je trouvais dommage que le voyage soit un espèce de ras-le-bol, de bulle, de, tu sais, de ce truc où bah, voilà, je claque tout et je pars en voyage. Pour moi, c'est un propulseur, en fait. Pour moi, c'est un stage intensif qui te fait être meilleur, qui te fait te découvrir. Pendant 5-6 ans, j'ai fait tout seul. Et puis, me tenait la caméra la personne qui était à côté de moi, en fait. Donc, ça pouvait être un guide papou comme tu vois, un mec qui était là, ou enfin, peu importe. Et puis après, j'ai commencé à emmener des gens que j'aimais bien, tu vois, des potes. Je leur dis, vas-y, viens m'aider à tenir la caméra, on va faire un petit trip et tout. Mais tes meilleurs souvenirs, ce ne sera pas ceux où tu diras, ah, ben, là, on est vraiment arrivé à l'heure, c'était top parce qu'on a fait la visite exactement dans le timing qu'on voulait. Et puis, on est rentré pile à l'heure pour tel dîner dans tel restaurant. C'était... Non, c'est pas ça. C'est en fait, on était parti là-dessus, on n'a jamais trouvé le bus. Puis, on a rencontré ce mec qui nous a dit, viens par là. Et au final, il nous a fait visiter un truc qui n'était pas du tout dans les guides. Puis, en fait, on a bien sympathisé, du coup, il nous a invité chez lui. Et c'était trop cool. Et c'est ça en fait.
Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre une heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. J'en profite pour présenter le podcast d'Alex que je reçois sur cet épisode, qui s'appelle « Je t'emmène en voyage ». Un podcast qui va vous donner envie de voyager grâce aux témoignages de personnes ayant vécu des voyages uniques, authentiques ou hors du commun et qui ont souvent changé leur vie. Le but, c'est de pouvoir vous inspirer, vous fournir les bons conseils pour parcourir le monde en toute sécurité, avec les bons gestes pour avoir un impact positif sur les destinations visitées. Voilà, ça s'appelle « Je t'emmène en voyage » et ça vaut le détour. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Alex Viséo. Bonjour Alex.
Salut Pierre-Arnaud, comment ça va?
Ça va super, je suis très content de pouvoir échanger avec toi et je te remercie de te libérer dans un agenda un peu chargé. Peut-être que pour ceux qui te connaissent pas, tu pourrais peut-être commencer par te présenter.
Bien sûr, donc moi c'est Alex Viséo, j'ai eu une vie de bureau pendant 6 ans jusqu'au jour où j'ai claqué ma dème et je suis parti faire le tour du monde pendant un an. Et en fait, je suis jamais retourné à ma vie d'avant puisque je suis devenu, avec les années, influenceur voyage. Et donc pendant 10 ans, j'ai parcouru le monde et ma mission, c'était de donner aux gens l'envie de voyager et leur montrer que c'était à la portée de tous. Parce que pour moi, le voyage, voilà, ça rend plus ouvert d'esprit. On se rend compte qu'on peut faire beaucoup plus de choses qu'on serait senti capable. Et je pense que c'est un premier step souvent vers une vie qui nous correspond un peu plus. Parce qu'une fois qu'on a brisé cette barrière du voyage, bah quand on rentre chez soi, on en brise beaucoup d'autres, des barrières qu'on se mettait un peu mentalement. Donc ça a été ça pendant 10 ans mon métier jusqu'à récemment où j'ai arrêté fin d'année dernière pour aller plus sur du marketing digital. Et finalement, là, mon but aujourd'hui, c'est ma nouvelle mission, c'est de transmettre cette méthode, toutes ces choses que j'ai compris qui m'ont permis d'avoir le métier de mes rêves pendant 10 ans et de le transmettre à des gens qui ont aussi envie d'avoir le métier de leurs rêves et qui leur manque quelques clés pour avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux.
C'est canon. Tu nous referais le brief rapide, qu'est-ce qui se passe au bout de 6 ans de métier dans ta tête? C'est quoi la raison qui te fait claquer la porte là?
Je pense qu'il est super simple en fait. Il est que je suis allé au bout du modèle qu'on m'avait toujours dit depuis que j'étais gamin, qui normalement marche, tu vois, c'est ce qu'on te dit. Je sais pas si t'as un bon job, t'as un bon salaire, t'as un appart, t'étais un truc calé qui, voilà, ça fait pas de vague, bah, c'est là où tu seras heureux, tu seras content et que t'auras une vie de sécurité. Et puis, en fait, tu t'aperçois que ce mantra-là, il est mis dans ta tête, au fin fond de ton cerveau depuis que t'es gamin, par la génération d'avant. Et en général, chaque génération a un espèce de step différent. On a un clivage, on se base pas sur les mêmes choses. On le voit sur la génération Z actuellement, elle n'est pas la même que la génération Y. Et en fait, moi, je me suis aperçu qu'en fait, avoir une vie de sécurité où il n'y avait pas de vagues, en fait c'était pas fait pour moi en fait, et que j'avais besoin en fait d'aller chercher plus, parce qu'en fait quand j'étais euh, quand j'étais parti plusieurs mois à l'étranger, que ce soit en séjour au pair ou en Erasmus en Espagne, je m'étais dit, putain, j'ai beaucoup moins et en fait, je suis beaucoup plus heureux. Donc en fait, j'ai décidé de me dire qu'il y a un jour, il fallait que je réalise mon plus grand rêve et que j'aille chercher en fait ma vérité à moi et pas celle qu'on avait essayé de m'imposer depuis le début.
Est-ce que tu pars sponsorisé ou est-ce que tu pars un peu à l'aventure d'abord, toi, à titre perso, et puis tu te rends compte que ça te plaît et que tu peux en faire un métier?
Ouais, c'est beaucoup plus complexe que ça, enfin plus simple même que ça, puisque moi, je te parle de ça, si je suis parti en 2011. Influenceur voyage, ça n'existait pas. Ouais. Blogueur, c'était pas un métier. Je savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec ça, tu vois. Moi, j'avais une seule chose en tête, c'était le voyage. Dans les précédents voyages que j'ai pu faire durant mes 5 semaines de congés payés, m'ont beaucoup apporté. Et je voyais beaucoup de gens, en fait, surtout des gens qui partaient au long cours, qui en avaient marre, qui avaient claqué leur dème, un peu comme moi. Et je trouvais dommage que le voyage ce soit un espèce de ras-le-bol, de bulle, de, tu sais, de ce truc où bah, voilà, je claque tout et je pars en voyage. Pour moi, c'est un propulseur, en fait. Pour moi, c'est un stage intensif qui te fait être meilleur, qui te fait te découvrir. Et pour moi, il faut le vivre depuis le plus jeune âge. Plus tôt tu y vas, mieux c'est. Et du coup, bah, j'ai pris ma caméra et j'ai voulu transmettre ça, en fait. J'ai voulu simplement transmettre quelque chose qui, moi, m'a été très bénéfique. Donc, moi, pendant 2 ou 3 ans, j'ai voyagé sur mes propres fonds et j'ai juste voulu partager ça à titre par plaisir, par passion. Je ne savais même pas que je pouvais gagner de l'argent avec. Donc c'était vraiment ça le but et à aucun moment il y avait du sponsoring. Moi, avant d'en faire mon métier, ce que je dis souvent, je me suis rassasié de voyage. Je me suis, à titre personnel, j'étais cherché dans mes tripes, j'étais cherché loin, dans mes retranchements physiques, mentaux, pour ensuite avoir vraiment cette envie d'en faire mon métier et de le partager au quotidien. Mais parce que moi, j'encourage pas les gens à tout de suite partir voyager et le partager et être sur les réseaux. Je pense que les gens, ils loupent 80% de leur voyage. Tu le fais quand toi, tu as trouvé ce que tu as été chercher. Et une fois que tu as eu des réponses, c'est à ce moment-là, en fait, que tu dois prendre ce nouveau rôle de messager, mais pas avant. Je pense que les gens, aujourd'hui, prennent des raccourcis. Ils veulent faire ce métier d'influenceur ou être sponsorisé pour en avoir les avantages matériels, extérieurs, qui font un peu stylé. Et ils en oublient l'essence même du truc, qui est finalement d'aller se trouver soi, en fait.
Et tu t'es trouvé combien de temps? Est-ce que c'est une quête encore, tu vois, perpétuelle, ou est-ce que tu t'es dit à partir d'un certain moment que ça y est, tu pensais avoir trouvé ta voie?
Je pense qu'il y a eu 2 phases. Il y a eu la phase où oui, je me suis trouvé, et deux, j'ai fait l'erreur de penser que c'était acquis, en fait. C'est-à-dire que quand tu trouves ton chemin, tu ne trouves pas une position GPS. Ce qui fait que quand tu as trouvé ton chemin, bah, ensuite il faut continuer de le prendre, de l'emprunter, de l'entretenir et avancer et évoluer. C'est vraiment ça le plus important. Et moi, j'ai fait l'erreur de croire que c'est bon, j'étais bien quand je suis rentré de Tour du Monde, j'étais la meilleure version de moi-même et je n'ai pas cultivé ça. Et finalement, bah, je me suis retombé dans les retranchements ou même dans des travers que je n'avais même pas avant. Parce que bah, je suis été soumis au stress de plein de choses, de changements de vie, et c'est là où j'ai capté, en fait. C'est là où j'ai compris que en fait, quand tu pars en voyage, tu vas répondre à des questions. Tu vois, t'as juste, en fait, c'est un peu comme The Truman Show. Tu sais, à la fin du film, le mec, il a capté, ouais. Il ouvre la porte. Ouais. Ok, c'est le début de la vie. Mais en fait, quand tu ouvres cette porte, t'as fermé une grande réponse que tu te posais, mais tu vas te retrouver devant 10 000 portes. Et en fait, faut faire la paix avec le fait que la vie, c'est simplement en permanence essayer de trouver la bonne porte. Mais c'est pas, il n'y a pas une porte finale, tu vois. C'est pas ça la vie. Et quand tu fais la paix avec le fait que c'est une évolution permanente et que c'est ça le côté agréable et que c'est pas simplement de trouver la dernière porte, bah là, c'est là où ça devient kiffant. C'est là, en fait, où tu trouves ton chemin et que tu prends du plaisir à ouvrir chaque porte et comprendre que parfois tu vas te tromper et que c'est pas grave, en fait. Donc la réponse, c'est ouais, j'ai trouvé ma vérité. Je l'ai perdu en chemin et j'ai compris comment la récupérer et j'ai compris qu'en fait, il faut la cultiver, en prendre soin et la faire évoluer.
Et ce partage dont tu parles, au début, c'est enfin, Instagram, je suppose, n'était pas encore là. Tu as dû ouvrir ton compte quelques années plus tard, 2014-15 par là, j'imagine. Comment tu véhicules d'abord ces premières images? Est-ce que tu avais un site web déjà à l'époque? Est-ce que tu faisais peut-être...
Ah, moi, c'était par vidéo. Moi, je faisais des vlogs. Okay. Tu vois, quand c'est arrivé 5-6 ans plus tard, un peu à la mode, moi, j'ai commencé par ça. Moi, je n'aime pas spécialement écrire. Et du coup, bah, je me suis dit, quelle est la meilleure façon pour moi de transmettre ma passion? C'est de le faire par quelque chose que j'aime. Et en plus, cette chose-là, la vidéo, elle permettait vraiment de rendre accessible. Tu vois, moi, j'aime bien ce côté où, en fait, voilà, je te montre, je suis en Mongolie. Bah voilà, mec, il y a pas, c'est pas genre, oh, mais comment t'as fait pour arriver là? Regarde, j'ai pris un van, après, je suis dans une famille, et puis voilà le quotidien. Et j'aime bien démystifier les choses pour les rendre accessibles. Parce que pour moi, c'est souvent ça le truc. On se fait d'une montagne quelque chose qui est une petite marche. Et je trouve que la vidéo est fantastique pour ça. Et alors moi, j'étais à la vieille école. J'ai pas mis une vidéo sur YouTube au début, j'ai mis sur Vimeo. Et peut-être que j'ai loupé un coche où j'aurais pu avoir peut-être plus d'abonnés ou plus de, tu vois, de visibilité, de tu vois, une grosse communauté. Parce que moi, je me disais, ouais, je vais récupérer toutes ces images, j'en ferai peut-être une émission de télé. Enfin, tu sais, t'es formaté à ce qui se faisait à l'époque, tu vois.
Ouais.
Et au final, j'ai toujours été content, en fait, avec du recul, parce que je pense que c'est mon ego qui me faisait avoir cette réflexion-là. Parce que finalement, j'ai réussi à atteindre ce que je cherchais, c'est-à-dire une notoriété qui me permettait de vivre de mon métier et d'être de temps en temps, avoir, tu vois, des feedbacks dans la rue qu'on reconnaissait, mais jamais assez connu pour que ça en soit une gêne personnelle dans mon quotidien, tu vois. Moi, j'aime bien pouvoir rentrer un peu pété le soir d'une soirée avec des copains dans le métro avec la tête de travers ou me curer le nez tranquille, tu vois, j'en sais rien, et pas être épié ou qu'on vienne me... J'aime bien, en fait, ma vie privée. Et en fait, finalement, je trouve que ma vie, elle m'a toujours donné ce qui inconsciemment je cherchais. En fait, je cherchais à être un peu connu, mais pas trop. J'avais toujours peur d'être trop connu. Et la vie est bien faite, t'attire à toi ce que tu veux. Donc ouais, j'ai peut-être loupé le coche, mais finalement, c'était, je pense, ce qu'il me fallait.
Et tu fais toujours tout seul? Ou est-ce qu'il y a un peu de voyage que t'as partagé peut-être avec d'autres aventuriers blogueurs un peu comme toi, ou avec des personnes qui t'as voulu en mettre en avant peut-être dans la vidéo?
Ouais, ça, j'ai pas mal fait. J'ai fait pendant 5-6 ans, j'ai fait tout seul. Et puis, me tenait la caméra la personne qui était à côté de moi, en fait. Donc, ça pouvait être un guide papou comme tu vois, un mec qui était là, ou enfin, peu importe. Et puis après, j'ai commencé à emmener des gens que j'aimais bien, tu vois, des potes. Je leur dis, vas-y, viens m'aider à tenir la caméra, on va faire un petit trip et tout. Puis un jour, j'ai commencé aussi, on a fait des collabs avec d'autres influenceurs. Et puis après, j'ai vite, en fait, pris aussi un pote vidéaste, filmmaker.
Ouais.
Et là, en fait, c'était trop kiffant parce que chacun pouvait se consacrer à ce qu'il aimait le plus. Moi, c'était de tout de suite être pote avec les gens sur place et briser la glace et essayer de capter des émotions, tu vois, en vivant des choses vraies et me concentrer sur les gens et que la partie technique et pouvoir transmettre, tu vois, ces émotions. Et la partie technique, ben, ça pouvait être mon pote qui se concentrait là-dessus. Et c'était 10 fois plus kiffant, en fait, parce que moi, je me concentrais sur ce que j'aimais. C'était le rapport humain et transmettre ce que j'étais en train de vivre. Et lui, il se concentrait sur comment rendre tout ça joli, finalement.
Et à partir de quand tu commences à en vivre, du coup, c'est quoi le type qui fait basculer un peu là-dedans? Est-ce que c'est la notoriété qui te permet d'avoir un certain sponsoring, ou c'est simplement le... Enfin, comment tu arrives à t'en rendre compte?
Oh ben, c'est simple, c'est un mec qui était directeur d'un petit office de tourisme de Brive-la-Gaillarde. Je fais un petit bisou, Stéphane. Et qui m'a dit, ouais, vas-y, viens, ce serait bien que tu fasses des vidéos dans ma destination et tout. J'étais à chaud, ouais. Bah, en fait, là, je vais partir faire un petit trek sur des purs sangs arabes dans le désert en Jordanie. Et c'était vrai, tu vois, je me faisais mon petit trip à moi et je dis, ouais, on verra, tu vois. Et le mec me relance quand je rentre. Il me dit, non, mais vas-y, viens, mais je te paye et tout. Je fais, comment ça? Je dis, bah, tu fais comme d'habitude, mais moi, je te rémunère parce que bah, tu trouves que tes vidéos elles donnent envie de voyager. Donc, si t'en fais chez moi, bah, peut-être des gens vont venir dans ma destination. Et là, j'ai fait, ah, d'accord. Ah, c'est possible. Et bah, je suis parti le faire, donc à ma sauce. Et à partir de là, en fait, l'influence marketing commençait à pointer le bout de son nez. Et les petits acteurs du tourisme qui n'avaient pas des gros budgets, bah, au lieu de continuer à bastonner leur budget en 4x3 ou dans les salons ou dans la presse, bah, ils cherchaient des façons un peu plus smart de dépenser leur petit budget. Et du coup, ils ont commencé à m'appeler. Et c'est toujours pareil, tu sais, quand tu fais les choses avec cœur, que tu t'assures que, un, ta communauté, elle est satisfaite du contenu que tu fais, que, deux, le client qui t'a engagé, les contenus du contenu que t'as rendu, et que toi, tu prends du plaisir, c'est ce que j'appelle un peu le triangle de cristal, c'est cet équilibre très fragile qu'il faut trouver. Et ben après, en fait, on fait que t'appeler. Et moi, à partir de ces deux premières missions, mon téléphone n'a jamais arrêté de sonner pendant 7 ans. Donc ça a mis 3 ans, tu vois, c'est venu à moi. Et quand tu dis, c'est quoi, c'est la notoriété? Oui, en fait, c'est l'attention que j'avais attirée avec mes créations de contenu et la notoriété que j'avais eue, où j'étais, à ce moment-là, j'étais la référence du blogging voyage en France. Bon, bah, on vient de chercher toi, en fait.
Et tu dis sur le blog, typiquement, que t'as aidé 150 ou plus de 150 voyageurs à partir en voyage grâce à ton blog.
On
est d'accord que dans la réalité, c'est beaucoup plus.
C'est le petit compteur où les gens laissent un témoignage. Tu vois, sur la page Facebook, je ne sais plus combien, je dois avoir 300 témoignages. C'est un compteur que j'alimente pas toujours et que je pousse pas vraiment. Mais tu t'aperçois en 10 ans, j'en reçois beaucoup des témoignages. En fait, c'est ça qui te refuel à chaque fois, en fait, qui te recharge. C'est les témoignages qui te scotchent, en fait, que... En fait, j'ai toujours l'impression qu'on envoie ça à quelqu'un d'autre. Enfin, tu sais, j'ai du mal. Il y a des gens, en fait, ils te font halluciner. Des gens qui ont eu un accident, ils sont restés 6 mois à l'hôpital et en fait, ils sont tombés sur tes vidéos. Et qui, en fait, c'est ça qui leur a redonné la pêche. Et quand ils sont sortis de l'hôpital, ils ont pris leur sac à dos. Ils sont partis à travers le monde et ça leur a redonné. Enfin, ça, c'est un des exemples, des milliers d'exemples. Enfin, tu vois, et en fait, chaque fois que c'est pareil, quand on me croise dans la rue, on me dit waouh, c'est grâce à toi que j'ai fait ça. En fait, j'ai du mal à... Enfin, t'arrives pas à croire que c'est toi, en fait. Et je trouve ça cool, en fait. Ça permet de garder la tête froide, tu vois.
Et du coup, sur les 150, tu parlais effectivement de nombre de personnes que t'as aidé à voyager. Tu sais combien t'en as aidé à devenir blogueur comme toi ?
Oh là non, j'en sais rien. Aucune idée.
Parce que tu dis que t'as fait quand même pas mal de collaborations avec certaines personnes quand t'as voyagé à partir de... Tu m'as dit au bout de 4-5 ans, tu commençais à le faire avec plusieurs personnes.
Ouais, mais c'est... En fait, je pense qu'il faut, il faut mettre ça de côté. J'en ai pas formé, j'en ai certainement inspiré. Tu vois, genre, il y a Johan Lolos qui est un grand Instagrammeur qui a plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur Insta, qui est un grand photographe. Lui, il est parti voyager en voyant mes vidéos, tu vois. En voyant une des vidéos qui est connue, qui est mon tour du monde en 5 minutes, tu vois. Et en fait, quand tu dis qu'un mec comme ça, c'est un de tes contenus qui lui a fait le déclic, c'est incroyable, tu vois, c'est génial.
Complètement. Comment tu choisis du coup tes destinations ? Enfin, comment tu as choisi ? Parce que, excuse-moi, tu as terminé l'année dernière. Comment est-ce que sur cette période-là, tu te disais...
Je voyage toujours, hein, tu vois, je suis en Ukraine, là. Je suis à Kiev pendant le confinement. Donc, tu vois, c'est... Justement, aujourd'hui, je voyage par plaisir, pur plaisir. Aujourd'hui, le voyage, c'est juste mon univers. C'est mon décor. C'est plus mon métier, en fait. Et j'avais besoin de ça. Et pour répondre à ta question, comment je choisis ? En fait, c'est simple. Les partenaires me contactaient, donc j'ai échangé avec eux pour savoir si c'est vraiment de mon style de contenu dont ils avaient envie et ma façon de présenter les choses et de les voir et de créer du contenu. Si oui, on avançait ensemble, donc j'allais dans leur desti. Et après, le temps que j'avais de libre, je choisissais les destinies qui, moi, me faisaient rêver, tu vois. Et je sais très bien, en plus, qu'il n'y aura jamais de collab, je m'en foutais, Et ça va de l'Iran ou Kyrgyzstan à Taïwan, enfin tu vois, que des ou au fin fond du Japon, des choses comme ça, enfin c'est, tu vois, c'est de la Géorgie, enfin tu vois, c'est des destins qui moi me font rêver et j'essayais toujours au moins une ou deux fois par an de partir sur des destins comme ça, parce que le problème quand t'es influenceur voyage, c'est le cas de d'autres influenceurs qui peuvent tu vois, c'est quand tu sais que tu peux partir gratuit voire rémunéré en permanence, tu te dis pourquoi j'irais payer quelque chose. Or pour moi c'est quelque chose de super important, parce que ton jugement sur le prix, se dire ici ça vaut le coup, ici ça vaut le coup, il y a un des critères qui est quand même dans ça vaut le coup, qui est le prix. Donc ok, c'est peut-être cher, mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est canon pour plein de raisons, mais peut-être que c'est canon mais le prix est démesuré, ou inversement, tu vois, c'est peut-être pas terrible mais finalement c'est tellement pas cher que ça vaut quand même le coup. Et si tu dépenses pas ta propre thune, pour moi, tu perds pied là-dessus, tu vois.
Ouais, bien sûr.
C'est important.
Mais je vois très bien. Mais du coup, d'ailleurs, typiquement, sur la carte qui est mentionnée sur ton site, il y a des pays dans lesquels je suis surpris que tu ne sois pas encore allé. Ou alors, c'est parce que tu as fait le choix ou de ne pas y aller, ou peut-être que tu avais effectivement, comme tu disais, que ça te...
Comme quoi ?
Notamment l'Afrique. Il y a très peu de pays en Afrique que tu as fait.
Ouais, c'est vrai. J'ai pas fait beaucoup de pays. J'ai fait, tu vois, le Maroc... J'ai fait l'Afrique du Sud et j'ai fait sur une mission humanitaire qu'on avait créée, on a fait un film justement, mais qui était Rwanda, Burundi et RDC. Mais tu vois, j'ai pas fait plus de pays que ça, effectivement. Et c'est une vraie volonté de vouloir le découvrir prochainement.
Ouais, non, c'était pas du tout une critique, c'était plus pour comprendre, tu vois, comme tu disais, tu
faisais des choix. Raison.
Et que les choix, comme tu disais, dépendent de ce que tes tripes te disent, finalement, de ce que ça te plaît ou pas. Peut-être que t'as pas forcément vu l'intérêt, en tout cas, jusque-là, et que ça te plaisait moins.
Oh, non, Pas du tout. Non, l'Afrique, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça te prend aux tripes, en fait. Et c'est. En fait, c'est presque pas le genre de pays où t'as envie de partir 2 ou 3 semaines, tu vois. T'as envie d'imprégner, donc. Ouais. Non, non, c'est vraiment clairement. Pas une erreur, mais juste. Ouais, une chose qu'il faut absolument que je fasse, ouais, carrément.
Est-ce que tu as eu un coach à un moment donné dans toute cette partie-là? Est-ce que tu t'es référé à quelqu'un qui était déjà un peu plus à l'aise ou je sais pas, qui dirigeait peut-être une agence de voyage, j'en sais rien, quelqu'un qui t'aurait servi de coach un peu dans le travail que tu as fait?
Non, ça c'est une grosse erreur que j'ai toujours eue tout au long de ma vie, en fait, que je regrette. C'est de ne pas avoir eu un mentor, en fait. J'ai tendance à avoir en plus le caractère d'être toujours essayé de, tu vois, de filer des conseils aux gens. Je me positionne un peu comme un mentor avec pas mal de personnes. Alors des fois ils m'ont rien demandé, hein, les gars. Et des fois ils sont contents. C'est une vraie erreur de ma part de pas avoir fait en sorte que je pense qu'un mentor faut aller le chercher, en fait.
Ouais.
Et s'il vient pas à toi. Et surtout que j'étais une période moi où il y avait pas autant de contenu disponible pour savoir comment fallait faire, comment fallait parler, comment fallait agencer ou créer du contenu. Donc j'ai fait plein d'erreurs, j'ai perdu beaucoup de temps. Et quand tu sais, en fait, que tu es accompagné par quelqu'un, que quelqu'un te file des conseils, à un regard extérieur, bah, tu vas 100 fois plus vite. Mais ça, je l'ai appris avec le temps et pour le coup, ouais, c'est quelque chose que je regrette.
Est-ce que dans le coaching que tu as peut-être raté, tu avais au moins une série de personnes qui t'inspiraient, tu vois, qu'elles allaient être des personnes que tu fais admirer, qui t'ont donné des idées, ou est-ce que, si tu devais donner 2-3 noms, un peu de name dropping, là, c'est quoi les personnes que tu vas, ou que tu as en tout cas, longtemps admiré?
Bah, en fait, j'en ai pas tant que ça. Si, il y a évidemment, en fait, Antoine de Maximi qui avait ce côté très à la cool, très brut, tu vois, dans ses images, et ça, j'aimais bien.
Ouais.
Après, la façon d'aborder certaines choses ou certaines personnes, ça me correspondait pas forcément, tu vois. Mais j'aimais bien ce style-là, effectivement, très, très naturel. C'est une des seules façons qui m'a vraiment inspiré pour me dire, ouais, ça, c'est vraiment cool, tu vois. Pour les autres, ça n'existait pas, en fait. Le truc, c'est que ça n'existait pas. Donc, je n'avais pas vraiment de quoi, tu vois, m'inspirer. Et s'il y avait un mec que j'aimais bien, mais et que j'ai eu la chance de rencontrer, d'ailleurs, avant d'avoir cette vie, qui c'était Stéphane Perron, et que j'ai croisé au détour d'une conversation, et qui, moi, j'adorais ses reportages sur Canal, tu vois, c'était fou. Le mec, il prenait son nid d'avion jaune, et il allait dans les tribus, enfin, c'était Barjo, et ça, j'aimais bien, ouais. Sur le côté vraiment, en fait, c'est ça que j'aime. Lui, je le trouvais très humble, très humain, très dans l'explication, et ça me plaisait beaucoup.
Et alors, dans la partie financement, tu parlais effectivement de ce passage où tu commences à être payé pour faire ces voyages-là, et donc ça met un peu de temps.
Ouais.
Si on met des volumes dans l'année, tu prends une année type, c'est quoi? Tu fais 3 voyages, 6 voyages, 12 voyages, c'est quoi le volume que tu fais dans l'année?
Bah, tu sais, en fait, c'est comme tout, hein. Plus le marketing d'influence a pris de l'importance, plus j'avais de missions. Et en plus, dès que j'en avais pas, ou moi, quand j'en avais, ou je prévoyais à l'avance des voyages, en gros, je faisais 1 à 2 voyages par mois, en fait. 1 à 2 voyages par mois. Donc, ça tartinait, ouais. Et c'est aussi une des raisons qui m'a fait arrêter. C'est pas tant que j'aimais pas ça. J'adorais ça, hein. Je mentirais si je disais l'inverse, hein. Mais... ouais, tu vois, quand tu prends l'avion autant et que tu vois comment dépérit la planète, qui est la nature, c'est une des choses qui me touche le plus et que j'affectionne le plus. Bah, en fait, tu dis, est-ce que toi, à ton échelle, parce que je suis sincèrement convaincu que c'est pas l'avion qui défonce la planète, hein, qu'on se comprenne. Hein. Je serais hypocrite si je disais ça. Hein. Mais je sais que chacun, pour changer le monde, doit faire quelque chose à son échelle. Et moi, ce qui était le plus négatif, c'était mes nombreux déplacements en avion, et rien que ça, bah, ça veut dire que bah, si moi je dois faire quelque chose à mon échelle, c'est de moins prendre l'avion. Tu vois, moi je sais que j'achète pas beaucoup de choses, et bah, une des choses qui défonce aussi la planète, c'est le textile, les biens de consommation. Tu vois, c'est moi, ma bagnole que j'ai achetée, elle coûtait 500 euros et je l'ai prise, tu vois, elle avait 200 000 bornes. Donc, si tu veux, c'était tous mes meubles que j'ai achetés dans mon appart, ils étaient 80%, c'était le bon coin pour éviter justement ça. Mais il y a un moment, ça n'empêche pas. Je pense qu'il faut commencer à nettoyer devant sa porte. Et que si c'est ça qui défonçait, enfin, tu vois, qui n'était pas bon dans mon bilan, je dirais comment dire,
carbone,
écolo.
Ouais, écolo, ok.
Bah, et du coup, c'est ça que je devais aussi voir, tu vois. Donc, c'était une des raisons. Donc, oui, je voyageais énormément. Mais j'essaie toujours de me soigner parce que, entre guillemets, parce que j'adore prendre l'avion, j'adore aller aux quatre coins du monde. Et j'essaie, du coup, maintenant de partir un mois minimum quelque part, tu vois, de moins prendre l'avion. Quand je vais quelque part, j'y reste. Tu vois, je suis pas à bouger tous les 2-3 jours, un machin, un truc. J'essaie de calmer cette frénésie, tu vois.
Ouais, je vois très bien. Et comment ils font d'ailleurs pour suivre tes proches quand tu pars aussi longtemps, tu vois? Déjà toi, à niveau social, bon, je pense que c'est une autre vie à chaque fois que tu atterris finalement sur place. Mais tes proches qui, eux, ne bougent pas, comment ils le vivent?
Qu'est-ce que t'appelles, tu mets qui dans les proches?
Ça peut être tes amis, ça peut être ta conjointe, ça peut être, tu vois, qui sont les personnes que tu vas côtoyer régulièrement, voire souvent dans l'année, et que finalement tu laisses un peu derrière le temps du voyage, quoi.
En fait, je me suis aperçu d'une chose, c'est que le fait de partir loin et souvent, eh ben, ça permettait en fait d'avoir des rapports avec mes proches qui étaient de plus grande qualité. Parce que souvent, plus t'es prêt, plus tu dis « ouais, faudrait qu'on passe se voir ». Puis quand tu vois tes potes, ils sont toujours occupés parce que finalement, t'es tellement proche que tu dis « je peux le voir prochainement ». Et quand je les voyais, bah, je dormais chez eux et je passais 2 jours avec eux. Et c'était pas juste le temps d'une heure avec un café ou prendre un verre, mais c'était vraiment, bah, je partageais vraiment plus. Et finalement, comment j'ai vécu ça avec mes proches, bah, quand je les vois, c'est plus fort, c'est plus puissant, c'est plus intense. Et en fait... Bah, en plus, avec les réseaux, mes parents, si tu veux, ma mère, ça doit être ma plus grande fan, ce qui, des fois, j'imagine qu'elle va écouter ce podcast si elle le voit passer sur mes réseaux, et je lui fais un bisou. Mais c'est clairement un peu gonflant, des fois, de te dire, bon, dès que tu fais un truc, c'est un peu comme si, je sais pas, t'étais une secrétaire, et que peu importe ce que tu fais, ta mère va regarder chaque mail que tu vas écrire ou chaque rapport que tu vas faire. Donc, des fois, tu peux te dire, bon, ça reste mon boulot. Mais après, l'avantage, c'est que, ben. Même si je suis loin et qu'elle ne me voit pas souvent, elle sait ce qui se passe dans ma vie, elle peut me voir, donc c'est aussi très positif, tu vois. Donc je le vois aussi comme ça.
Ça a l'avantage d'être pratique, parce qu'effectivement, tu en résultes derrière de quelque chose d'assez palpable, tu vois. Enfin, c'est digital, mais dans le sens que ça reste une photo, une vidéo que tu peux voir, donc tu peux suivre, quoi, carrément. Ok. Qu'est-ce qui te définit, toi, dans tes petits défis secrets, quoi? Si on devait sortir un peu de cette passion que tu as au quotidien, que t'as pendant 10 ans, du coup, de voyage et qui continue encore aujourd'hui, ça, c'est ta passion du quotidien. C'est quoi les petits défis secrets que tu t'es mis, par exemple, en tête de faire sur ces prochaines années, peut-être?
Alors, c'est pas secret, parce que j'en parle régulièrement. Moi, mon grand rêve aujourd'hui, puisque avec la vie dont que j'ai mené, j'ai réalisé beaucoup de mes rêves. Vraiment, j'ai réalisé beaucoup, beaucoup de rêves, dont un des derniers, un des grands forts qui était de nager avec des baleines, tu vois, en Polynésie, peu importe où c'était, mais d'ailleurs, mais je l'avais fait au Tonga l'année d'avant, mais celle, la fois en Polynésie, qui était presque un peu spontanée, ça a été une folie, puisque je suis resté 1h40 avec des baleines dans l'eau, et même les locaux, ils avaient rarement vu ça. Mais j'ai vécu plein de choses, tu vois, j'ai vécu vraiment plein de choses, j'ai accompli plein de rêves. Et celui que j'ai aujourd'hui, c'est clairement de m'ancrer et d'avoir une maison en bois avec des grandes baies vitrées, une terrasse sur le toit, dans la forêt et au bord de l'eau, que ce soit un lac ou une rivière ou une mer, etc. Et c'est vraiment arriver à trouver ce camp de base qui sera un peu, tu vois, le lieu où je reviendrai, où je repartirai. Alors, je ne cherche pas toujours à avoir une vie frénétique, mais c'est ce petit cocon qui me ressemble, qui est apaisant, qui me permettra de... Tu vois, de repartir, parce qu'encore une fois, je pense que ça fait partie de moi, le fait d'être stimulé, de découvrir des cultures, de partir sur des projets. Et c'est ça aujourd'hui mon grand rêve. Et le grand rêve que j'ai toujours eu au fond de moi et que j'ai fait la paix un jour que je ne réaliserai jamais, c'est que je dunkerai jamais au basket. Voilà, ça, c'est moi, mon sport, c'est le basket. Et ça fait des années que j'ai abandonné. Je me suis dit, bon, bah, ça n'arrivera jamais. Et tout basketteur arriver un jour d'arriver de claquer un gros dunk. Et voilà, ça, je sais que voilà, j'ai fait la paix avec celui-là. Je crois que celui-là, à mon âge, j'ai jamais pris le temps de développer ma détente pour le faire. Et j'ai fait la paix. C'était un petit rêve secret que j'avais.
Et t'en as fait longtemps du basket jusqu'à ton départ en voyage, finalement, j'imagine?
Ouais, j'en fais dès que j'en ai un peu l'occasion. Mais c'est sûr que, surtout quand tu ne fais pas un sport régulièrement, et surtout que c'est un sport quand même d'impact, le basket, pas en termes d'impact avec l'autre, mais impact dans les genoux, dans le dos. je peux t'assurer que quand tu fais une heure ou deux de street, ouais, le lendemain, je suis laisse tomber. Je suis un grand-père. Là, je suis dégoûté. je me demande où sont passés mes poumons. J'ai plus de cardio. J'ai plus de... Donc, mais dès que j'ai le cas, j'en fais, ouais.
Canon, ça.
Et pour te dire, pour le petit fun fact, pour remettre un peu de fun dans ma vie, parce que c'est clair que depuis que j'ai changé de vie, ma vie au quotidien, bon, le confinement n'aide pas, mais quand même un peu moins fun. Parce qu'avant, je passais de 7h du matin à 10h le soir, mes journées dehors, à rencontrer des gens et faire des trucs de fou. Bah, pour remettre un peu de fun dans ma vie, j'ai avec moi à Kiev, là où je suis dans mon Airbnb, j'ai apporté un petit panier de basket, tu vois, pour me faire triper. Et du coup, avec mon équipe, on joue les gages et tout. Le premier qui met tant de paniers, il doit faire la vaisselle ou il doit faire tel truc. Voilà. Pour te dire que j'aime bien ça quand même.
Avec, attends, du coup, tu es confiné à Kiev pour une raison particulière. Qu'est-ce qui a fait ce choix de partir là-bas?
Alors, à Kiev, on n'est pas confiné, hein, les gars. On met un petit masque là pour la rigolade, tu vois, pour faire gaffe, on se lave les mains, ça c'est sûr. Mais non, je voulais pas être confiné. Voilà, chacun ses croyances. Je crois pas en un confinement comme celui de la France. Je respecte parfaitement ça, au contraire. Je pense qu'il faut vraiment protéger les gens les plus faibles. Mais du coup, bah, je suis venu à Kiev où là, c'est une autre façon de l'aborder. Certainement parce qu'ils n'ont pas le choix aussi. Mmh. Parce qu'il n'y a pas de chômage et d'assurance maladie. Donc, de toute façon, il faut avancer. Et qu'une grosse grippe, dans l'idée, quand tu es en bonne santé, ça n'a jamais tué personne. Mais que du coup, bah, si tu as 30 piges et que tu fumes et que tu bois beaucoup et que tu as une santé de merde, oui, peut-être qu'il faut que tu fasses gaffe. Tu vois. Et évidemment, les personnes âgées, ça, la question ne se pose pas.
C'est quoi, si tu devais sortir un peu du lot, alors ça va être difficile, mais si tu devais sortir du lot, ton pire voyage, l'expérience la pire qui t'a... Tu rentres énervé, frustré, tout ce que tu veux.
Ah, facile.
Ah ouais, ok.
Facile. J'en ai fait qu'un et c'est ce qui a déterminé ma façon de voyager pour le reste de ma vie. J'ai fait le Maroc, parce qu'on avait que 6 ou 7 jours avec mon ex de l'époque, et on s'est dit, viens, parce qu'elle était marocaine, on s'est dit, viens, on va découvrir ton pays qu'elle ne connaissait pas finalement, parce qu'elle est toujours au même endroit avec sa famille. On va le découvrir un peu en voyage organisé, tu sais, les circuits organisés.
Ouais, ouais.
Mais plus jamais. Donc on a vu des belles choses, mais pour moi, c'est insupportable. Tu descends du bus, on t'a 30 minutes ici, tu vas manger dans le resto qu'on te dit, tu visites tel truc, mais ok, moi je deviens en plus... j'ai découvert avec le temps que moi, ce qui me rend heureux et la valeur que je cultive dans mes choix de vie, hein, ça va dans tous mes choix de vie, hein, perso et pro. C'est la liberté. Autant te dire que là, j'étais pas très bien. Et je deviens assez désagréable quand tu m'enlèves cette partie-là de ma vie, qui est finalement ce qui me dirige ma vie. Donc, quand tu dis viens ici, fais ci, fais ça, je suis pas bien. Et donc, clairement, je suis rentré, je fais plus jamais. Et je l'ai plus jamais fait.
Bah, je veux bien te croire. Parce que effectivement, la partie tour opérateur organisé,
il y en a à qui ça peut aller, en fait. Et je trouve ça génial, hein, tu vois, quand t'as envie de te laisser porter, t'as pas envie de réfléchir, tu gères tes gamins et ton boulot qui te gère un stress de fou tout le temps, t'as peut-être clairement pas envie de te faire chier à comment faut aller d'un point A à un point B, ou aller où faut aller manger, t'as envie de te laisser porter, et ça amène, je trouve ça génial. Moi, mon corps est pas fait comme ça. Voilà.
Ouais, bien sûr, mais je comprends. C'est un état d'esprit. Enfin, c'est ce que j'ai effectivement.
Exactement.
Faut se mettre dedans ou faut pas se mettre dedans. J'ai eu la même avec d'autres voyages et j'ai ressenti un peu comme toi. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de ne pas me sentir contraint dans un itinéraire qui a été prédéfini parce que je préfère déterminer le mien, mais c'est aussi, comme tu dis, parce que j'ai le temps et le choix de pouvoir le faire. Donc, c'est vrai que ça change un peu la donne, quoi. Et à l'inverse, typiquement, si tu devais me sortir le meilleur voyage, tu saurais me dire faire un choix ou pas?
En fait, les meilleurs voyages, c'est ceux où il y a de la surprise, tu vois. C'est ceux où tu te donnes un thème, et puis tu y vas, et puis tu vois le reste, tu vois. Tu vas au feeling, tu modifies au gré des rencontres, ou tu as des imprévus. Tu vois, pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont dans le voyage, il faut comprendre une chose. Il faut te donner des grandes lignes directrices, il faut te donner un espèce de thème ou un état d'esprit que tu vas avoir dans le voyage, mais tes meilleurs souvenirs, ce ne sera pas ceux où tu diras « Ah !» Ben, là, on est vraiment arrivé à l'heure. C'était top parce qu'on a fait la visite exactement dans le timing qu'on voulait. Et puis, on est rentré pile à l'heure pour tel dîner dans tel restaurant. Non, c'est pas ça. C'est en fait, on était parti là-dessus. On n'a jamais trouvé le bus. Puis, on a rencontré ce mec qui nous a dit, viens par là. Et au final, il nous a fait visiter un truc qui n'était pas du tout dans les guides. Puis, en fait, on a bien sympathisé. Du coup, il nous a invité chez lui. Et c'était trop cool. Et c'est ça, en fait. C'est ça, les meilleurs souvenirs de voyage. C'est les imprévus, c'est les surprises, c'est les galères que tu transformes si tu as le bon état d'esprit. En meilleur souvenir de ta vie, et peu importe ce que tu vas, parce que les gens ils se sont dit ouais, mais si je fais ça, comment on y va, tu stresses pas, vas-y, Parce que si justement, le vas-y, si en plus il t'arrive des trucs qui sont pas prévus, c'est ça qui va être génial.
Mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que la partie d'imprévu...
Eh ben, je suis bien content, Pierre Arnaud, que tu sois d'accord. Attends, merde, ça aurait créé un débat de fou.
Non, je suis bien d'accord sur la notion d'imprévu, parce qu'effectivement, moi j'ai l'habitude de voyager typiquement en prenant un aller-retour avion, et puis c'est tout, quoi. Puis après, tout le reste est improvisé sur place. Et je pense qu'il y a une liste des grandes lignes à faire dans un voyage... dans un pays typiquement où il ne faut pas oublier de passer par-ci, par-là. Globalement, le reste, ça s'improvise et c'est ce qui fait aussi la richesse, je pense, du voyage. Tu n'en rentres pas de la même manière, tu as vécu autre chose, quoi.
Exactement.
Qu'est-ce qui t'anime, toi, dans cette transition, toi, tu parles de marketing digital, qu'est-ce qui fait que ça te paraissait un bon rebondissement, alors la décision d'arrêter, elle devait pas être très facile. Je sais pas comment tu l'as vécu, on pourra en parler. Mais qu'est-ce qui fait que c'est cette transition-là que tu as trouvé la plus stratégique par rapport à ton métier précédent?
Alors pour répondre rapidement à la deuxième question, ça n'a pas été facile. En fait, c'est l'inverse. C'est de se dire, c'est comme le jour où je suis parti claquer ma DEM pour faire mon tour du monde. En fait, les gens, ils voient le côté genre, waouh, t'as tout plaqué du jour au lendemain. Oui, techniquement, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais en fait, c'est une jauge qui monte jusqu'au moment où la cocotte minute avait... Et en fait, faut que tu exploses. Enfin, faut que tu partes, sinon ça explose, justement. Et là, c'était un peu ça. Chanter un espèce de truc en moi, je ne savais pas trop le définir, qui grandissait, un espèce de truc où... Ah, je sens qu'il y a un truc qui ne résonne plus pareil. J'aime toujours autant le voyage et rencontrer les gens. Le métier en tant que tel, il y a un truc qui me gênait. Et jusqu'au moment où je me suis levé un matin et j'ai pris ma douche et je me dis ok, faut que je l'annonce en fait, faut que je le dise que j'arrête. Parce que, encore une fois, j'adore le voyage, j'adorais ce que je faisais. Et qu'à chaque fois qu'on me proposait une collab, je pouvais pas refuser. Que ce soit partir avec un pote ou un truc, je pouvais pas, tu vois. Donc, je me suis dit, vaut mieux que je coupe, tu vois, je coupe le clac. Et tu sais, genre la barque, tu sais, la barque ou le petit canot qui a une petite corde qui te rattache à la berge. J'ai dit non, clac, on la coupe, sinon on va jamais partir. Donc en fait, il y a un moment où c'est devenu évident, et j'ai juste coupé la corde et terminé, et puis on y va, quoi. Et pour répondre à la question de comment j'ai trouvé cette nouvelle voie, pourquoi je suis parti là-bas, qu'est-ce qui m'anime, j'ai passé une première partie de ma vie d'influenceur voyage à donner aux gens, à aider les gens à réaliser leurs rêves personnels. Et mon outil, c'était le voyage, mon levier, tu vois, pour leur faire comprendre, les rehausser, se dire « Oh putain, en fait, derrière le mur, il y a plein de trucs, tu vois. » Aujourd'hui, ma mission, c'est d'aider les gens à réaliser leurs rêves, mais professionnels, en ayant le métier qui les fait vibrer et que à travers ma méthode que je leur transmets sur les réseaux sociaux pour émerger, pour faire grandir sa notoriété et devenir une référence de leur secteur, jamais je vendrais un truc où tu deviens en fait influenceur ou alors ça va générer des millions en chiffre d'affaires. Non, en fait, parce que en fonction de ton secteur que tu as choisi, tu as peut-être gagné que le SMIC. Et ça arrive, il y a une nana que j'accompagne, elle me dit, moi je veux juste à devenir autrice féministe, et si j'arrive à gagner le SMIC, je serais heureuse en fait. Je pourrais quitter mon taf lambda qui me plaît pas, et c'est ça qui me fait vibrer, tu vois. Et c'est ça que j'adore, c'est des gens qui ont un talent, des gens qui ont un métier qui les fait rêver, essayer de leur donner des clés pour leur donner assez de visibilité pour qu'en fait, au lieu d'aller chasser les clients et les contrats, ils viennent à eux en fait. Et ça, je trouve ça beau parce que je me suis dit, moi, j'ai eu cette chance, un, de voyager à travers le monde. Et ça, du coup, j'ai aidé les gens à mon échelle, en tout cas, j'aurais donné les clés pour y arriver. Et deux, j'ai réussi à avoir le métier de mes rêves pendant des années, en fait. Et je me suis dit, mais ça aussi, j'ai envie de le transmettre. Parce que c'est fou, en fait, quand tu te lèves le matin et que. Et alors, ça a des côtés négatifs parce que des fois, tu t'arrêtes jamais de travailler parce que tu t'adores ça, en fait. Tu travailles pas, tu kiffes. Et donc, ça a eu d'autres travers sur moi, mais c'est quand même un moment fou de te dire que en fait un tiers de ta vie tu passes plus à faire un truc un peu robotisé où tu t'attends juste la fin du mois pour avoir ton chèque, mais juste un truc qui te fait triper chaque jour. Ah, t'abordes pas la vie de la même façon en fait. Donc c'est ça en fait, c'est pour ça que j'ai choisi cette nouvelle voie.
Ce qui correspond finalement à un rôle de consultant, si je devais le définir comme ça.
Ouais, aujourd'hui en fait je suis ce qu'on appelle un coach. Parce que aujourd'hui, j'ai cette partie premium où j'accompagne en coach, en mentoring, en attendant de développer ma formation en ligne. Tu vois, je prends mon temps de bien éprouver ma méthode, parce que mon but, c'est comme dans le voyage, j'ai jamais fait des choses, jamais mis en avant des hébergements, des activités ou des styles de voyage de luxe, parce que j'aime pas l'élitisme. C'est pas moi, c'est pas là d'où je viens. Je viens d'un milieu prolétaire. Pour moi, on est à la méritocratie, on est au, tu vois, où je suis inclusif, je suis pas exclusif. Et du coup, ben, le coaching pour moi, ça a cette forme quand même un peu exclusive, où finalement, ben, c'est réservé à une élite qui peut se permettre de s'offrir mon accompagnement. Mmh. Et ben, je veux, ok, on va continuer à l'avoir, mais je veux aussi qu'il y ait d'autres personnes qui puissent avoir accès à mon savoir et à ma méthode, ceux qui en ont envie en tout cas, pour des sommes qui sont beaucoup plus raisonnables, pour des sommes qui sont beaucoup plus accessibles, tu vois. Et ça pour moi, c'est ultra important.
Ok, mais très clair, très clair. Avec une part peut-être d'influenceurs Instagram qui a pris le devant aussi, là, que le compte qui a pris quand même pas mal de valeur finalement, de followers, etc. Est-ce que ça devient aussi, tu vois, cette partie d'influenceurs qui garde un certain intérêt finalement dans ta vie, quoi?
Bien sûr, en fait, j'essaie de reprendre une régularité aussi, parce que j'avais fait un peu une pause, du coup, je reprends une régularité sur la création de mes contenus. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est pas tant Instagram. Ce qui est intéressant pour moi, c'est d'éprouver différentes méthodes de création de contenu sur différentes plateformes. Puisque aujourd'hui, c'est Instagram, demain, c'est TikTok, et après-demain, ce sera Kling Klang Bloom, tu vois, j'en sais rien. L'important, c'est de comprendre comment fonctionne un outil et c'est quoi le mindset pour avoir, pour appréhender un outil et se l'approprier et arriver à l'utiliser, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Enfin, je veux dire, c'est comme si tu me disais, demain, bah, moi, je sais bien gérer une perceuse. Putain, je me suis défoncé pour vraiment être super bon à la perceuse. Ouais, mais en fait, tu vois, il y a aussi la scie circulaire. Et en fait, tu vois, il y a aussi, je sais pas, le fer à souder. Et en fait, c'est peut-être vachement intéressant d'apprendre tous ces métiers-là, d'apprendre tous ces outils pour vraiment faire quelque chose d'important. Alors oui, il faut une spécialisation, mais si demain, pour X raisons, je sais pas, la perceuse, ça devient inutile parce qu'on crée, je sais pas, des aimants à souder ou des aimants, tu vois, des trucs un peu futuristes, eh ben, faut que tu réapprennes cet outil. Faut qu'en fait, le plus important, c'est pas tant la connaissance de la perceuse, c'est comment t'as réussi à l'apprendre rapidement, à l'appréhender et pouvoir le mettre en pratique, tu vois. Pour moi, c'est ça qui est important.
J'ai rien à dire, c'est tout à fait ça.
Ben oui, non, mais de toute façon, moi j'aime bien quand je fais une interview avec toi parce que t'es toujours d'accord.
On peut rentrer dans un débat un peu différent si tu veux.
Vas-y, attaque-moi.
J'ai une question un peu plus philo, tu vois, pour bien se mettre dedans.
Ah mais... voilà, là tu vas pouvoir peut-être me tacler.
c'est comprendre un peu, tu vois, est-ce que tu penses que la notion de voyage, notamment avec la phrase « faire un pays », tu vois, qui, moi, me sort par les trous de nez. Est-ce que tu penses pas qu'on en fait un peu trop dans l'idée, comme tu l'as dit à très juste titre, hein, de faire un voyage sur un week-end, sur une semaine, et donc, en fait, on fait un voyage express d'un truc qui mériterait qu'on y passe un peu plus de temps, quoi.
C'est quoi la question ? C'est de se dire, est-ce que en gros, on est trop dans le consumérisme, on va trop vite ?
Ouais, est-ce que toi qui as passé 10 ans à voyager, avec des formats notamment de missions qui devaient être un peu courtes aussi, tu ne penses pas qu'il y a une éducation à apporter pour le voyage ?
Il faut qu'on change notre mentalité. En fait, il faut qu'on repense le voyage. La perception qu'on a du voyage aujourd'hui, et pas la perception, mais même la façon de l'appliquer, comme moi je l'ai appliqué pendant des années, hein, qu'on se comprenne, hein, c'est un bien de consommation. C'est un bien de consommation en plus où tu ne fais que prendre, sans rendre vraiment. Parce que même si je me suis toujours efforcé de... Tu vois, quand je suis à l'étranger, je ne vais jamais dans les chaînes ou dans les multinationales et j'essaie toujours de dépenser local, que ce soit dans les hébergements, dans les restos, dans les activités, etc. C'est déjà un bon pas, mais je pense qu'il faut aller plus loin dans le sens où les activités qu'on doit faire doivent être plus portées sur tu vois, l'échange avec l'autre, la transmission avec l'autre. Et pas juste, je viens ici, je kiffe, la plage, l'activité, super, merci, je te paye, c'est cool, au revoir. Je pense que ça, il faut qu'on arrive à faire évoluer ce modèle. Et que en fait, le voyage, ça peut être aussi une forme de bénévolat, une forme de, tu vois, de choses où tu vas t'imprégner de plus de la culture. Contrairement aujourd'hui, finalement, toi, t'importes ta culture. Parce que toi, tu vas te dire, ouais, ben non, mais j'ai fait le guide avec machin. Oui, mais en fait, les restos, plus ça va, ben plus ils prennent le niveau de vie et le confort que les touristes ont un peu exigé ou un peu demandé. Tu vois, je pense qu'il y a une demi-mesure. Il y a ce côté où, OK, ça peut faire évoluer les choses. Donc, améliorer le niveau de vie des gens qui en ont besoin, parce que des fois, ils seront contents aussi d'avoir un peu d'argent pour avoir de l'eau potable et de l'eau courante, et ça, c'est très bien. Mais il ne faut pas que ça aille à un niveau où ça dénature totalement la culture et que ça efface un peu les lifestyles traditionnels. Et je pense que finalement, le tourisme doit évoluer vers une forme d'immersion plus que de consommation. Et je pense que c'est vraiment important d'essayer de comprendre. Alors évidemment, les capitales, les grandes villes, les choses comme ça, qui sont déjà ultra occidentalisées, ça va être pas trop possible. Mais il y a plein d'endroits en fait où on peut encore bien réfléchir ce modèle ou le faire évoluer dans ce sens. Et je pense que c'est ça en fait le vrai challenge, c'est d'arrêter de faire changer les lieux que tu vas visiter, mais les bonifier dans le sens dont eux ont besoin et pas dont toi tu aimerais qu'ils évoluent, pour que toi ton confort soit plus agréable. Il faudrait qu'ils évoluent pour que eux leur confort soit plus agréable, tout en étant fidèles à ce que au final ils sont, et ils sont dans leur âme, dans leur culture et dans ce qu'ils aimeraient devenir, mais ce qu'ils aimeraient devenir profondément, pas ce que toi tu leur fais miroiter parce qu'ils te voient avec tout le confort et du coup ça leur donne envie. Tu vois, il y a une vraie différence.
Complètement. Comment tu conseillerais à quelqu'un qui, enfin, tu vois, si tu devais formaliser les étapes, quelqu'un qui veut devenir influenceur voyage ou blogueur voyage, je sais pas comment tu peux le tourner dans différentes formulations, mais c'est quoi les étapes selon toi à suivre si quelqu'un veut se lancer là-dedans?
En fait, moi je dirais j'encouragerais pas les gens à se lancer là-dedans. J'encouragerais les gens en fait à se dire, c'est quoi qui te passionne? C'est quoi qui te fait vibrer en fait? C'est quoi qui te fait triper quand tu voyages? C'est quoi qui te... Est-ce que finalement c'est les gens? Est-ce que c'est les cultures? Est-ce que c'est les paysages? Et c'est quoi ta... Est-ce que ça te passionne? Ok. Est-ce que ça te passionne au point de vouloir en parler? Est-ce que ça te passionne au point de vouloir faire comprendre des choses aux gens? Oui, non. Non, c'est égoïste, c'est juste un truc pour te rassasier et que du coup tu veux gagner de l'argent avec. Bon, bah, moi je te dirais, j'ai pas envie de t'aider en fait. Parce qu'on n'a pas besoin de ça en fait. Encore une fois, je pense qu'on a trop été dans l'égoïsme. Et même moi qui ai toujours essayé d'être dans l'altruisme, dans le. Tu vois, dans essayer de transmettre des belles valeurs, au final tu fais toujours attraper par ça. S'il n'y a pas une vraie démarche profonde. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde, il a besoin surtout d'influenceurs voyage qui sont très très impliqués dans la protection de la planète et qui aujourd'hui sont, je pense, j'espère, dans les nouvelles générations, parce que peut-être que la mienne, on est trop formaté, on fait trop l'écart, le grand écart de Jean-Claude Van Damme, on a trop un pied dans l'ancien monde et dans le nouveau monde, et qu'on a du mal à refuser, tu sais, à complètement lâcher prise sur certaines choses, abandonner certains réflexes, et que je pense que les nouvelles générations, certains en tout cas, le voient comme une aberration, quelque chose qui, nous, on a du mal à aller de l'avant. Donc, j'aurais tendance à plus encourager des gens qui sont déjà, en fait, avec un mindset dont on a besoin, plutôt que des gens qui vont essayer de trouver un chemin, mais qui, c'est cool quand même de voyager, etc., etc. Je pense que c'est ultra important qu'il y ait des gens qui partagent, qui continuent de faire des vidéos, qui continuent de faire des reportages, des photos, des articles. Mais je pense qu'on a besoin de personnes dont la mentalité existe encore trop peu aujourd'hui. Et ça, malheureusement, bah, ça choisit pas. C'est pour ça que moi, j'ai décidé d'arrêter, parce que je savais que ma mentalité n'était pas assez bonne. C'est-à-dire que j'ai la bonne mentalité, mais mes actions n'étaient pas assez puissantes. Je me sentais pas assez légitime pour ça. Tu vois, je pense qu'il faut être son meilleur exemple. Et moi, je prenais trop l'avion. Voilà, il y a des trucs qui clochaient pour que je me dise, ok, je me regarde dans une glace, je peux dire, suivez-moi, je vous inspire, c'est cool, voilà, je suis un bon exemple. Personne n'est parfait, on se comprend. Même les bons exemples sont parfaits, mais tu vois, j'encouragerais pas les gens qui sont pas vraiment dans une super démarche au fin fond de leur trip, tu vois.
Ok, non mais ça fait sens. Et puis c'est tout à fait honorable pour comprendre un peu, tu vois, la logique, et je pense que c'est la bonne approche. Et il faut vivre de ça. Enfin, déjà, il faut vivre de sa passion si tu veux pas sentir que tu bosses. Et puis en plus, effectivement, c'est il vaut mieux partir de quelque chose qui correspond au profil de la personne que de le faire juste pour le faire, quoi.
Mais oui, parce que en fait, pour moi, l'influence, c'est à la base, ça part de quelque chose que t'aimes transmettre, que ce soit même la mode ou le make-up ou même le fitness. Enfin, moi, je vois rien de mal à ça. Si des gens sont passionnés par la mode, le fitness, tout ça, et qu'ils le transmettent, et parce qu'ils le transmettent bien, et qu'ils font rêver, et qu'ils inspirent, ils ont rassemblé une communauté engagée, ben, génial, tu vois. Génial. Enfin, moi, c'est... Par contre, si tu le fais parce que tu as envie d'avoir je sais pas, des vêtements gratuits ou du make-up gratos ou je sais pas, tu vois, c'est ça qui me gêne en fait. C'est que l'intention première est mauvaise. Si tu deviens riche et connu, pour parler un peu salement dans les termes qu'on aime bien et qu'on n'aime pas en France, et que tu le fais parce que tu as fait quelque chose de bien et que tu as apporté de la valeur aux gens, mazel tov, mais génial. Enfin, tu t'es défoncé pour essayer d'être utile aux gens, de les inspirer, de les motiver, et que du coup, ben, tu as gagné beaucoup d'argent et tu es devenu super connu, ben, génial, j'ai envie de te dire. C'est que tu as pris le bon chemin et que la vie t'a récompensé. Continue. Mais si l'inverse est vrai, hein, fais plus chier, tu vois.
Complètement. C'est quoi les... Comment on fait pour te suivre, du coup, Alex? C'est quoi les endroits où on peut te contacter, d'ailleurs? Est-ce qu'on peut te contacter, notamment si on veut faire appel à tes services, par exemple? Comment ça marche?
Ouais, bien sûr. L'avantage, c'est que sur étant depuis pas mal d'années sur tous les réseaux, c'est très simple. Il suffit de taper Alex Vizeo, V-I-Z-E-O, sur Google. Et du coup, ensuite, tu choisis la plateforme ou le réseau social qui te correspond le plus. Donc, ça va de Instagram à YouTube, à mon blog, à TikTok, à Facebook, ce que tu veux. Tu devrais me retrouver facilement. Ou sur mes podcasts, tu vois. Tu devrais trouver un média qui te correspond pour consommer les contenus que je transmets.
Top, écoute. Okay. Et dernière question, c'est... imagine, avec les moyens du moment, on a l'occasion de te renvoyer un peu en arrière et tu vas t'adresser à cet Alex qui a bientôt 6 ans de métier, qui est en train de bouillonner. Qu'est-ce que tu lui dis?
Ah, je lui dirais d'être un peu plus indulgent avec lui-même. Et je pense que c'est quelque chose qui, en fait, c'est bon de se challenger. Moi, j'ai tendance à m'auto-flageller. Et du coup, ça, en fait, ce degré-là est pas bon parce que finalement, ça te freine. Parce que du coup, tu cultives une énergie négative. Et je pense que ce qui est super important, c'est de faire et de se planter. Ou tu te plantes pas, tant mieux, tu vois, mais il faut pas avoir peur de faire, en fait. Faire et apprendre en faisant. Et non pas, attends, je suis pas prêt, ouais, on va voir, ou c'est pas assez bien. Ok, c'est pas bien. Ok, si c'est pas bien, qu'est-ce qui est pas bien? Ok, on taffe dessus, c'est cool. Et prendre du plaisir à se dire, oh mince, on n'a pas réussi, bon bah allez, la prochaine fois. Plutôt que des fois s'auto-flageller comme je peux le faire, et du coup, ça pompe une énergie qui devrait être attribuée à faire des choses positives plutôt que négatives. Voilà ce que je dirais.
Ok, ouais. Merci Alex pour ce super temps et ce que tu m'as accordé ici. Donc je suis ravi de faire cette rencontre et connaissance plus amplement.
Merci Pierre.
C'était vraiment génial. Écoute, on va suivre attentivement les prochaines...
Écoute, plaisir partagé, merci de m'avoir invité. Et j'espère que la prochaine fois, en plus avec le confinement, on se fait ça en ambiance 21e siècle, mais sinon au plaisir de se croiser pour faire le vrai concept normalement, qui est de visu, une heure avec une pizza et tout le tout team.
Avec un grand plaisir. Merci Alex, à très bientôt.
Ciao à tous.
Salut.
Ciao.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt.